France Inter.
Aujourd'hui, à l'écoute des Chants de la Terre, raconté par
Caroline Audibert, auteure et journaliste.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Il y a quelque part à des milliards de kilomètres de notre planète, deux petits vaisseaux partis de la Terre il y a presque 50 ans, deux sondes jumelles, Voyager 1 et Voyager 2, qui s'éloignent encore aujourd'hui du Soleil à plus de 15 km par seconde. À leur bord, un objet minuscule poursuit sa dérive dans le noir interstellaire, un disque d'or, un 33 tours glissé dans une pochette d'aluminium, et sur ce disque, la Terre, ses voix, ses bruissements et ses chants. En 1977, un alignement rare des planète avait offert à la NASA l'occasion de lancer ses sondes promises aux confins du système solaire. Mais avant leur départ, on y avait placé un message, une carte postale sonore pour d'hypothétiques passagers d'un autre monde. Ce message, ce sont les Golden Records, 180 minutes de son avec des vagues, du vent, des orages, des oiseaux, un battement de cœur, des pas humains, mais aussi des salutations en 55 langues et des musiques, Bach, Stravinsky, des chants pygmées, du raga indien, un blues de Louis Armstrong et le Johnny B. Goode de Chuck Berry. Un disque conçu pour survivre un milliard d'années. Depuis Cap Canaveral, les sondes ont frôlé les géantes gazeuses, découvert des lunes, envoyé des milliers d'images, elles ont franchi l'héliopause, la frontière où le vent solaire ne domine plus, et elles dérivent désormais dans un océan de particules interstellaires qu'aucun autre objet humain n'a touché. Leurs signaux nous parviennent encore faibles et espacés, mais bientôt viendra le silence total. Elles continueront d'emporter seules la trace sonore de ce qui fut la Terre. Si ces deux disques nous émeuvent encore, c'est parce qu'ils rappellent ceci, notre planète est un organisme sonore. Elle murmure, elle gronde, pulse, ses voix, les océans, les forêts, les orages, les animaux, les machines, les pas d'humains dessinent une histoire fragile et continue qui nous raconte notre façon d'habiter le monde en ouvrant l'oreille, en laissant revenir les sons qui nous relient au vivant, en écoutant ce qui bruisse, ce qui vacille, mais aussi ce qui disparaît. Écoutez ce que la Terre dit, écoutez ce qu'elle dévoile, écoutez cette planète vivante qui, comme les sons de Voyager, continue de nous envoyer ses messages depuis ses zones les plus lointaines. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Caroline Audibert.
Bonjour Mathieu.
Vous publiez chez Actes Sud les audionotes à l'écoute des chants de la Terre dans la collection Monde Sauvage. Qu'est-ce que ça évoque pour vous d'imaginer des sondes qui sont sorties de notre système solaire et qui transportent avec elles les sons de la Terre ?
C'est assez incroyable, cette carte postale sonore que nous, les terriens, avons lancée dans l'univers et qui continue de dériver. Et c'est, voilà, ce qui est étonnant, c'est qu'on a eu une manière... On a présenté notre planète, on s'est présenté en tant que terriens, grâce à nos sons, grâce à nos langues, grâce aux sons de notre planète qui exprime toute la fécondité de la Terre. Et voilà, d'imaginer tous ces sons réunis dans ces disques, inclus dans ces sondes, voilà, dans la fragilité de ces vaisseaux, c'est extrêmement émouvant et ça fait un contre-champ par rapport à notre... situation de terrestre.
Ouais, et alors c'est quand même une drôle de chose d'imaginer qu'un jour ces sons pourraient être écoutés un jour. Par qui d'ailleurs,
mais absolument. Et Carl Sagan et Drake avaient d'ailleurs incrusté dans les disques d'or un mode d'emploi. Alors je ne sais pas si
il sera compris un jour. Caroline Audibert, votre livre semble naître d'une longue enquête, mais aussi d'une expérience intime. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout ça a façonné votre écriture ?
Absolument, c'est un livre qui s'enracine dans une expérience, ma révélation audionaute. Je me suis rendu compte que tous les audionautes que j'avais rencontrés avaient eu leur moment un petit peu où leur oreille s'était tout à coup dessillée, s'était ouverte, avait commencé à les faire voyager dans vraiment la fécondité du monde. Et pour moi, ça a été la découverte de la forêt amazonienne. J'ai vécu un bain sonore une nuit, alors que je m'étais aventurée seule dans la forêt, et j'étais entourée de sons d'oiseaux, d'insectes, de singes hurleurs. Et j'étais pétrie par toutes ces sonorités. Et là, quelque chose dans ma sensibilité s'est modifié, a changé. Et j'ai commencé à appréhender finalement le monde autrement.
Avec des cigales, par exemple, c'est pas la seule chose qu'on entend dans la forêt amazonienne, parce que cette forêt, elle est extrêmement vivante, extrêmement bruyante, on pourrait même dire même parce que le silence, il n'existe pas dans cette forêt en réalité.
Non, c'est un monde crypté, cryptique, et notre œil est bien maladroit pour nous faire évoluer dans cet univers végétal et animal très foisonnant.
Ça, c'est vous qui les avez enregistrés, ces cigales, qu'on va d'ailleurs écouter un petit peu. Voilà, les cigales de l'Amazonie guyanaise, en l'occurrence, c'est pas du tout les cigales de la Provence, hein.
Non, tout à fait. Moi qui suis une Provençale, je suis familière des cigales. Et là, ce sont des cigales que j'ai pu enregistrer lors d'un second voyage, parce que l'Amazonie m'a aimantée durant toute mon enquête. Et j'ai pu y retourner et séjourner parmi une communauté amérindienne, les Wayampi.
Oui.
Et c'est là que j'ai entendu ces cigales qui symbolisent sur la canopée, là où il fait chaud, chaud au soleil. Et elles exercent, durant toute la saison sèche, elles ont ce temps de parade, où les mâles cigales symbolisent, appellent les femelles de leur chant. Et ce chant-là, il fait comme un dôme sonore, il est extrêmement... il aimante, il accompagne, il crée une voûte au-dessus de soi, comme un ciel sonore. Et les Amérindiens Wayampi disent qu'ils sont tristes lorsqu'il s'en va.
Vous décrivez vraiment un basculement sensoriel pour vous dans cette forêt. On a bien compris que ça a été vraiment un choc d'y être. C'était pas juste écouter ou entendre des sons, mais véritablement d'être traversé par ces sons. C'est ce que vous avez éprouvé physiquement aussi dans votre corps.
Oui, c'est ça. C'est presque une transformation cellulaire, c'est-à-dire que c'est un rattachement finalement à l'histoire du vivant, puisque tous ces sons sont des récits quelque part, des récits biophoniques, des intrigues animales, des intrigues élémentaires, des intrigues végétales. Et on se relie. À travers l'écoute audionaute, on se relie vraiment à cette longue histoire du vivant dont nous procédons.
Alors sur le compte SoundCloud d'Actes Sud, votre éditeur, dans la collection des audionautes, on peut découvrir plusieurs sons de l'Amazonie par exemple. On va écouter un autre son qui s'intitule « De l'aube à la nuit d'Amazonie ». Là, on n'est pas en Guyane.
Non, là on est au Brésil,
c'est ça,
dans le Rondônia. Et c'est un audionaute qui s'appelle Michel Rodolfini, qui est musicien et qui a ramené ces sonorités. On entend vraiment une tourne au-dessus du chorus des oiseaux et des insectes. On entend ce son-là qui va revenir. Et il a enregistré ce son au début des années 90. Et il est très probable que ce son n'existe plus à cet endroit-là, puisque le Rondônia a subi des incendies à partir de 2019.
Oui. Et ça transforme considérablement la forêt. On en reparlera tout à l'heure avec le travail de Bernie Cross aussi, qui a pu comparer différents écosystèmes à différents moments. Et on voit vraiment aussi ce que nous racontent les sons à travers l'impact des activités humaines. Alors ce néologisme d'audionaute, ça raconte quoi? Parce qu'on le comprend à peu près, mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement, Caroline Audibert?
Alors, j'ai cherché un mot un petit peu qui rassemblerait les différents audionautes, parce qu'ils sont à la fois des scientifiques, des gens de terrain qui vont capter les sons, les audionaturalistes ou des journalistes sonores, de simples écoutants comme j'ai pu l'être au cours de mon enquête. Et c'est vrai que en y réfléchissant, j'ai trouvé ce terme audionaute. Qui veut dire, oui, audire, entendre, qui vient de la racine indo-européenne, percevoir, avoir conscience d'eux. Donc c'est plus qu'une simple écoute auditive, il y a quelque chose de l'ordre de la compréhension, de la conscience. Et puis notesse, qui vient du grec et qui exprime celui qui navigue, celui qui voyage. Donc il y a cette idée de déplacement. Ouais. Par l'écoute.
Donc c'est celui qui voyage par l'oreille, hein, tout simplement.
Exactement.
Et qui rapporte aussi les messages qu'il entend. Puisque vous parlez de Grèce et de voyage, ça nous amène logiquement sur les traces d'Ulysse. Et pour en dire un petit mot, je vous propose d'écouter un extrait des Contes de la Maison Ronde sur France Musique. C'était en juin dernier, autour d'Ulysse et des sirènes.
Oh, mais c'est le célèbre Ulysse. Comme tu es beau et fort, Ulysse! Quel héros magnifique! Arrête ton bateau et écoute nos douces voix. Tu ne vas pas repartir sans écouter nos jolies chansons. Ulysse!
Caroline Audibert, pourquoi avoir associé Ulysse à cette figure du premier audionaute finalement ?
On connaît toutes et tous l'histoire envoûtante des sirènes. Et je me suis interrogée à mon retour d'Amazonie, de mon premier voyage. Je me suis interrogée sur ce mythe des sirènes finalement. Qu'est-ce qu'Homère entendait par là ? Et je me suis aperçue, là, dans l'extrait qu'on a entendu, on entend vraiment une voix articulée, un discours, même Ulysse est nommé. Mais dans le texte, si on regarde bien, il est dit que les sirènes savent tout ce qui advient sur la terre féconde, tout ce qui advient, genetai, vraiment tout ce qui est engendré. Et c'est un chant qu'elle délivre d'une voix pure, peut-être qui n'est pas la phonée, qui n'est pas une voix vraiment formulée, qui n'est pas un discours, mais quelque chose d'envoûtant.
Ouais. Qu'est-ce qu'ils cherchent les audionautes comme vous, au fond, Caroline Audibert ? C'est quoi la quête d'un audionaute ?
Je pense que la quête d'un audionaute, c'est d'entrer en résonance, d'entrer en contact, justement, avec cette part féconde de la terre, avec cette nature qui s'engendre perpétuellement, qui est cette procession qui a engendré toutes les familles du vivant dans lesquelles nous nous inscrivons aujourd'hui. Et je crois que voilà, les audionautes sont en lien avec cette histoire-là de la terre nourricière et féconde.
On parlait de la dimension sensorielle tout à l'heure, mais il y a une grande dimension spirituelle aussi dans ce que vous nous dites quand même.
Oui, exactement. Une spiritualité animiste, naturelle, exactement. Mmh. Et les audionautes sont aussi ceux qui sont donc au plus près et qui essaient d'entendre les différentes voix de la Terre et qui peuvent aussi nous alerter.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Une cloche qui sonne, des oiseaux qui chantent. Depuis le confinement, les habitants des centres urbains redécouvrent ces sons, autrefois couverts par l'activité humaine. Pour l'instant, difficile de tirer les conclusions de l'impact du confinement sur la biodiversité, mais déjà une chose est sûre, certains oiseaux ont modifié leur emploi du temps.
En période habituelle, par exemple, les oiseaux, pour communiquer, chantent, ils vocalisent, et quand ils sont mis en concurrence avec la pollution sonore, ils vont avoir tendance à chanter soit un petit peu plus tôt. Et là, ce qu'on aimerait voir, c'est s'ils réadaptent leur comportement, s'ils chantent un petit peu plus tardivement le matin, s'ils prennent un peu plus de temps le matin pour chanter, pour se préparer finalement.
Selon le Conseil national du bruit, le coût des pollutions sonores liées au transport est estimé à 20 milliards d'euros par an.
Reportage en 2020, pendant la crise du Covid de France 3, Occitanie, Caroline Audibert, vous qui êtes notre invitée, qui publiez chez Actes Sud les audionautes à l'écoute des chants de la Terre dans la collection Monde Sauvage. Et c'est vrai que cet épisode de pandémie a constitué une expérience grandeur nature qu'on n'avait jamais vécue auparavant. Ça a été beaucoup commenté, ça d'ailleurs. Hein. Ça a marqué les esprits.
Oui, ça nous a tous marqués. Et nous, en tant qu'urbains, moi j'ai vécu cette expérience personnellement en plein Paris. Et c'était très intéressant d'expérimenter cette métamorphose absolue de nos villes. Et qui ont eu un... Enfin, on est tombé à des niveaux sonores qui évoquent ceux des années 50, peut-être parfois, dans certains contextes, dans les niveaux pré-industriels. Mmh. Et on s'est rendu compte, on s'est tous rendu compte que les chants d'oiseaux étaient beaucoup plus présents et qu'on pouvait peut-être tisser d'autres liens et à avoir un autre quotidien à nos atmosphères sonores, à nos habitats, même si c'était une période extrêmement difficile et particulière.
Est-ce que le silence, il existe vraiment sur Terre ? Est-ce qu'on peut trouver le silence quelque part sur notre planète ?
Alors, le silence, c'est pas un très bon signe pour la Terre féconde, puisque les espèces ont toute une signature, enfin, beaucoup d'espèces ont une signature sonore, et donc quand il y a des poches de silence sur la planète, c'est pas très bon signe. Justement, cette quête de silence, j'étais allée l'expérimenter dans une chambre anéchoïque qui sont des salles particulières souterraines, suspendues, conçues spécifiquement avec des dièdres qui absorbent toutes les ondes sonores, qui empêchent qu'il y ait un écho, donc on les appelle vraiment les chambres anéchoïques. Et on dit qu'il est assez difficile d'y demeurer, que alors moi j'ai pas eu de difficultés particulières.
Vous êtes resté combien de temps dans cette chambre ?
Je suis restée 30 minutes.
30 minutes. Qu'est-ce qu'on éprouve dans le silence absolu qu'on ne vit jamais en réalité ?
Voilà, c'est un silence qui n'existe pas vraiment sur la Terre. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on découvre qu'on nous sommes intrinsèquement, même si nous ne parlons pas, nous sommes des êtres sonores, des sens sonores. On entend notre respiration, bien sûr, peut-être les bruits de notre ventre, notre rythme cardiaque, on entend notre cœur, on entend la pression sanguine. Donc vraiment l'impulsion que notre cœur envoie dans nos artères, qui est de l'ordre de 150 pascal. Le professeur qui m'a accompagné, qui a fermé la porte de la chambre anéchoïque derrière moi, m'a dit que c'était un niveau sonore qui rendrait sourd n'importe qui.
Voilà. Comment s'est passée votre première rencontre avec Bernie Krauss, ce musicien et bioacousticien qui a transformé votre regard sur le son, mais celui de beaucoup de gens aussi qui ont pu découvrir ces expositions, comme ces dernières années, par exemple, à la Fondation Cartier? Comment ça s'est passé exactement?
Ma première rencontre avec Bernie Krauss, c'était en 2015, et c'était une rencontre en visio. Moi, j'étais installée à la montagne, et lui était chez lui, en Californie, avant que sa maison et sa sonothèque prennent feu lors du méga-feu de 2017. Et il y avait autour de moi beaucoup d'oiseaux. Et j'avais un peu peur qu'ils ne me prennent pas au sérieux, que voilà, ça ne fasse pas très professionnel, parce que je réalisais l'interview, c'était en été, la fenêtre était ouverte, et je réalisais l'interview de Bernie ainsi. Et en réalité, ça a tout de suite créé une complicité. Il m'a dit, mais où vous trouvez-vous ? Quel est ce son ? Et je lui ai dit que voilà, là où je me trouvais, et ça l'a beaucoup surpris, parce que lui a fait une croix sur l'Europe, en me disant que l'Europe, c'était trop bruyant pour lui. Et ce découvreur des sons les plus sauvages du globe a pu découvrir un son qui valait la peine.
Alors Bernie Krause, qui avait une sonothèque absolument extraordinaire, parce qu'il a enregistré pendant des décennies les sons de la nature. On va écouter d'ailleurs l'un d'eux, l'aube dans la Chênaie, au Wild Sanctuary de Californie. C'est enregistré en 2014, 3 ans donc avant l'incendie. On va écouter tout de suite cet extrait. Et on entend une forêt très bruyante, là aussi. Hein.
Très sonore, on entend une kyrielle d'oiseaux, on entend le... On entend le pic.
Oui, on l'entend bien.
Et là, c'est après l'incendie. À la même période, à la même heure, à l'aube, après le méga-feu de 2017.
C'est incroyable, parce qu'on a l'impression qu'on a baissé le son, mais c'est réellement ce qui s'est passé, en fait. Hein.
C'est exactement ça.
Une partie, en tout cas, de cet orchestre sonore qu'on entendait très présent au début, a disparu complètement après l'incendie.
Absolument. Bernie Krause parle, enfin, dit cette phrase, « Un son vaut 1000 images ». C'est-à-dire que là, en l'espace de quelques secondes, on a compris ce qui s'était passé. On a compris les conséquences du passage du méga-feu, ouais. Avec la chute soudaine et drastique et ouais. L'appauvrissement de la biodiversité sur ce site.
Donc là, c'était des incendies. Et puis un autre exemple, toujours en Californie, avec d'autres enregistrements qui précèdent d'ailleurs ces enregistrements. C'était en 1988 et 1989, lorsque Bernie Krause avait enregistré la forêt de la Sierra Nevada, donc toujours en Californie, avant, donc en 1988, la coupe forestière. Et ensuite, en 1989, on va donc écouter ça tout de suite et on va tout de suite comprendre où se situent ces deux périodes. Et c'est la rivière qu'on entend.
Oui, c'est la rivière.
Qu'on entendait presque pas dans la première séquence, un an avant.
Qui était filtrée, en réalité, par toute cette architecture verticale de la forêt. Et bien que la coupe forestière sur cette forêt ait été raisonnée, c'est-à-dire qu'on a prélevé un arbre tous les 10 ou 15 mètres, mmh. Donc avec vraiment... Une tentative de gestion raisonnée, eh bien on voit la métamorphose qui va mettre des dizaines, voire plus, d'années à se recouvrir.
On voit aussi l'importance dans ce travail sonore de la mémoire aussi, hein, à travers ces enregistrements. La mémoire donc du vivant, qu'on peut graver comme ça dans la bande sonore, et l'urgence aussi à la documenter, parce qu'on voit la rapidité des activités humaines, et donc l'enjeu aussi de raconter ces sons de la nature.
Oui, lorsque la sonothèque de Bernie Krause a pris feu en 2017, ça a été pour moi un second déclic. C'est ce qui m'a vraiment décidé à mener cette enquête ouais. approfondie. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir plusieurs audionautes, plusieurs passionnés de l'écoute qui ont capté ces sonorités qui constituent comme vous dites, la mémoire du vivant et la mémoire, notre mémoire aussi.
Caroline Audibert, j'aimerais qu'on écoute ensemble un autre son. On change de continent, on va en Ukraine cette fois-ci, en mai 2006, à Tchernobyl. On va écouter ce qui se passe sur ce site, évidemment, qui a été dévasté par les radiations nucléaires, enregistré par Peter Kuzak, le 4 mai 2006 exactement. Donc là, on entendrait ce son, on demanderait à quelqu'un « Où sommes-nous ?» Personne ne citerait spontanément Tchernobyl. Hein.
Tout à fait, tout à fait. C'est... Moi, je ne m'en lasse pas de l'écouter. Et Peter Cusack est un... se définit comme un journaliste sonore britannique. Il a capté ce son en pleine ville de Tchernobyl, à 4h du matin, donc en pleine nuit, dans la zone interdite qui est réservée à la gestion du réacteur nucléaire et de toute la zone. Et c'est Peter Cusack est parti à travers le monde à la rencontre des dangerous places, vraiment ces lieux les plus abîmés du globe, ceux qui ont été le plus impactés par la crise écologique. Et évidemment, en pénétrant la zone interdite de Tchernobyl, il ne s'imaginait pas à quel point il allait ramener des sons vivants, des sons nés du désastre, puisque lorsque le réacteur numéro 4 a explosé en 86, c'est l'équivalent de 400 bombes d'Hiroshima. Et donc les oiseaux de la zone étaient tous morts, bien sûr, ils étaient tous tombés. Et là, 40 ans plus tard... Ouais. Ils sont revenus. Et ce qui est émouvant également, c'est qu'il a pu ramener des voix humaines, car nous faisons partie de cette sonosphère, de cette terre féconde. Et il se trouve que, après leur évacuation, des personnes, des évacués, sont revenus vivre dans leur maison dite primitive, c'est ainsi qu'ils les appellent. Et vraiment ces maisons attenantes à un potager, à une forêt, qu'ils connaissent comme personne, avec un calendrier, une manière de vivre les saisons qui suit l'arrivée, le départ des oiseaux. Et on entend, si on découvre le travail de Peter Cusack, on peut entendre des chants de femmes notamment, puisque c'est une société assez matriarcale, et qui sont magnifiques et qui témoignent aussi d'une vie possible, même au cœur des zones dévastées.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
On peut tout simplement détruire les appareils d'audition, auditifs, les tympans des animaux, notamment des mammifères marins. On va générer du stress, comme nous, on en développe à l'écoute du bruit du périphérique, c'est exactement la même chose. On peut développer des maladies longues, hein, des maladies endocriniennes, des maladies cardiovasculaires, et puis ça empêche de communiquer, ça empêche de se concentrer, ça empêche de réfléchir. Donc c'est une vraie pollution. La pollution sonore, c'est la seconde pollution, hein, après la pollution chimique. Donc c'est quelque chose qui est très fort et qui pourtant nous passe comme ça. On n'y prête pas attention, on a une sorte d'accoutumance à ce vacarme continuel. On accepte ça alors que c'est un agent toxique.
Jérôme Sueur, qui est maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, où il dirige le laboratoire d'éco-acoustique, c'était dans la grande librairie de France 5 en 2023. Caroline Audibert, vous qui êtes notre invitée avec les audionautes à l'écoute des Chants de la Terre, c'est cet ouvrage que vous publiez chez Actes Sud, La pollution sonore, parce qu'on parlait tout à l'heure, on disait que le silence n'existait pas, mais le calme non plus n'existe pas sur Terre.
Le calme se fait rare, il affecterait la majorité des écosystèmes terrestres. Bernie Krause évalue à 80%. Une enquête européenne évalue à 4% de zones calmes en Europe. Donc oui, le calme, le silence des hommes, le calme de l'anthropophonie se fait rare. Il y a des chercheurs d'ailleurs dans les années 50, des médecins otorino-laryngologues américains qui sont partis rendre visite à justement l'une de ces communautés amodernes qui sont exemptes d'exposition à cette pollution.
Oui.
Justement, ils se sont interrogés sur l'impact du bruit sur l'audition humaine et sur la santé humaine. Et ils ont échantillonné, donc ils ont rendu visite aux Mahabans, qui veut dire peuple de la terre, c'est très beau, sur les hauts plateaux du Soudan, c'était avant la guerre. Et ils ont échantillonné entre des personnes entre 10 et 90 ans. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de déperdition auditive et qu'un vieillard de 90 ans entendait quasiment comme un enfant de 10 ans.
Quelle chance!
Et ils ont fait une étude comparative avec un échantillon de personnes du Wisconsin et c'était pas du tout la même chose puisqu'il y a une perte auditive des hautes fréquences chez ces populations-là. Il y a d'autres études qui ont été menées ensuite sur les habitants de l'île de Pâques, qui est dite l'île du silence. Ouais. Et on retrouve un petit peu les mêmes choses et... Les gens qui ont fait un séjour de 3 à 5 ans sur le continent, qui sont revenus vivre sur leur île, avaient perdu en audition. Donc en fait, cette pollution sonore, ce bruit constant qui donne la couleur de nos habitats urbains et même ruraux et même montagneux, en réalité nous affecte de manière invisible.
Ouais. Donc ça veut dire que le bruit humain, c'est devenu aussi la signature de notre époque, la signature de ce qu'on appelle l'anthropocène aussi, hein, directement liée aux activités humaines.
Exactement, c'est la signature de l'anthropocène. On a pu expérimenter, donc lors du confinement, on en parlait tout à l'heure, et des chercheurs se sont emparés de cette fenêtre un petit peu hors norme en termes de niveau sonore sur la planète pour étudier, pour comparer les différentes atmosphères sonores dans les villes. C'est un projet en open science qui s'appelle Silent Cities et qui donne une photographie comme ça du monde confiné et évidemment la biophonie, tous les sons, les chants de la terre sont rehaussés, sont vivifiés.
Caroline Oudibert, vous parliez de l'île de Pâques. Je vous emmène sur une autre île plus proche de nous, en Bretagne. C'est l'île de Bréhat, avec cette archive de l'INA de 1970, où les tracteurs de l'île faisaient beaucoup parler à ce moment-là.
Il se passe des choses dans l'île de Bréhat. Les voitures y sont interdites de séjour, mais pas les tracteurs. De là viendrait tout le mal.
C'est un bruit infernal.
Ça vous gêne, vous ?
Ah, personnellement, oui, puisque j'ai eu des clients qui sont partis par rapport au bruit qu'il y avait ici. Qu'on a eu des tracteurs qui passent à 5h du matin, à 10h30 du soir, 11h, minuit. Tout le monde dira il faut vivre avec son temps, il faut avoir le matériel nécessaire. Mais en fait, moi, je pense qu'avec le nombre de tracteurs qui existaient déjà avant, il n'y a pas besoin d'en mettre d'autres.
Vous voulez faire une espèce de réserve naturelle pour les hommes, non ?
Oui.
Une société protectrice des hommes.
Des hommes. Qui sache apprécier encore la beauté de la nature, le calme et l'air pur.
Ce qu'il faut, c'est organiser. Ce qu'il faut, c'est supprimer l'anarchie. Il n'est pas question de supprimer les tracteurs quand ce sont des outils de travail et dont on a besoin.
Voilà Caroline Audibert, les tracteurs de la discorde en 1970.
Oui, aujourd'hui, on est très inventif en matière de bruit et aujourd'hui, il y a de nouveaux bruits qui émergent. Ce sont les bruits, par exemple, des éoliennes qui inquiètent, qui émettent des ondes infrasonores. On ne connaît pas encore vraiment l'impact sur la santé humaine et sur la santé des écosystèmes. Et il faut savoir que le bruit humain, le bruit des hommes, connaît une accalmie dans la période dans laquelle nous entrons, parce que entre Noël et jour de l'an.
Ah.
Et ça, ce sont les sismographes qui sont cachés au fond des océans ou au fond des roches qui le révèlent.
Comment vous expliquez ça alors que... ce soit plus propice au calme, justement, ces périodes de fêtes de fin d'année.
Mais les chercheurs qui écoutent en permanence les palpitations de la Terre, le mouvement des continents, les frictions, les petits séismes, ont du mal, en temps normal, à justement avoir accès à ces voies telluriques. Et il y a en général et ils sont obligés d'ailleurs d'user de filtres pour pouvoir décoder les sons de la Terre et les sons qui relèvent de des activités anthropiques. Et il se trouve qu'entre Noël et jour de l'an, ils observent une accalmie en général. Mmh. Et lors du confinement, cette accalmie s'est considérablement étirée et ils ont pu écouter la Terre comme jamais.
Vous qui êtes si sensible au son, on parle de plus en plus de ces drones qui viendront nous livrer des commandes jusque chez nous dans un futur très proche. Ça existe déjà d'ailleurs dans certains pays. C'est un peu effrayant, non, d'imaginer qu'on va en rajouter des couches encore et que tout à côté de nous, on va entendre bourdonner ces drones en permanence.
Oui, ça c'est notre responsabilité que de continuer sur notre lancée d'humanité bruyante, mm-hmm. sachant que c'est une partie de l'humanité qui, même si c'est la majorité, qui est productrice de bruit, la société évidemment industrielle, post-industrielle, mais il n'incombe qu'à nous, ouais. il ne tient qu'à nous de mieux canaliser cette pollution.
Alors justement, pour terminer, Caroline Audibert, en cette période de fin d'année, si vous vouliez déposer un petit cadeau au pied de notre sapin, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller pour nous réinscrire finalement dans cette sonosphère là que vous décrivez, par où on commence en fait?
On peut commencer par, justement, en tant qu'écoutant, on peut commencer par des actions simples, par à nouveau prêter attention, peut-être lorsque nous ouvrons nos fenêtres, nous traversons nos jardins, nos forêts, nous nous promenons autour d'une rivière, peut-être prendre un temps pour être un petit peu silencieux et tendre nos oreilles, essayer de pratiquer une simple écoute. Évidemment, il y a plein d'autres manières artistiques, des ateliers qui sont menés de plus en plus. Mais c'est un. Il y a une part. Les architectes ont aussi un rôle à jouer pour designer peut-être les villes de demain qui seraient des villes un peu silencieuses. On peut trouver un quartier qui a été pensé comme ça à Stockholm, mmh. justement. On peut donc peut-être mieux légiférer la pollution sonore. Et s'interroger sur des questions de droit. Des chercheurs sont en train de travailler ces questions-là, y compris en donnant peut-être, en accordant...
une valeur juridique, c'est
une
ça,
valeur
pour
juridique,
certains sons.
Oui, pour certains sons, et même pour les sons de la Terre, une valeur de bien immatériel, puisqu'ils ouais. sont vitales. Tant que ces sons demeureront... Nous demeurerons aussi, puisqu'ils veulent dire qu'on habite une planète vivante.
La boussole de nos sociétés modernes serait acoustique, hein, c'est ce que vous écrivez. Donc passons par l'ouïe pour essayer d'habiter autrement notre planète. Merci beaucoup à vous, Caroline Audibert, d'être venue nous ouvrir un petit peu les oreilles. Je renvoie sur cet ouvrage que vous signez, ça s'appelle « Les audionautes à l'écoute des chants de la Terre ». Et c'est aux éditions Actes Sud, dans cette collection « Monde sauvage » que nous aimons beaucoup. Et il est peut-être encore temps de le déposer au pied du sapin. Merci beaucoup à vous et à bientôt. Merci.